Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter donc sur les logiciels libres et les seniors. Nos invités du jour, Alain Cazier, conseiller en formation continue retraité et bénévole dans un centre social parisien. Bonjour Alain.
Bonjour Fred.
Et Claude Gage, comédien. Bonjour Claude.
Bonjour.
Alors d'abord, je tiens à préciser que le sujet nous a été proposé par Alain, qui fréquente de temps en temps les apéros après le local. Donc une fois par mois, j'en fais à la pub. Alors le prochain, je crois, de mémoire, c'est le 18 octobre 2019, vendredi 18 octobre. Donc c'était un apéro ouvert à tout le monde dans le 14e arrondissement de Paris. Vous retrouverez les références sur le site de l'april.org. Et donc Alain nous a proposé il y a quelques temps ce sujet sur la question donc des logiciels libres pour un public très précis qui est les seniors, même si évidemment les seniors, ça commence en fonction de la définition à plus ou moins différents âges, mais avec des problématiques particulières. Alors d'abord, première question, une petite question de présentation de tour de table. Qui êtes-vous? Donc on va commencer par Alain Cazier.
Disons, à l'heure actuelle, je suis essentiellement bénévole dans un centre social parisien où j'y suis depuis 18 ans, donc c'est pas nouveau, mais j'anime des ateliers d'informatique. J'aide les utilisateurs à régler les problèmes qu'ils peuvent avoir avec l'informatique. Et en particulier, on est en liaison avec le Conseil des seniors du 10e arrondissement qui nous envoie fréquemment des personnes qui ont des problèmes avec l'informatique, qui ont des soucis avec leur portable ou avec leur smartphone d'ailleurs. Donc on essaye de régler ça de façon à ce qu'ils soient plus tranquilles et plus libres aussi de ce point de vue-là. Donc ça m'a amené, en liaison avec mon intérêt pour les logiciels libres, à proposer à des gens qui avaient des difficultés sur des systèmes propriétaires à passer sur du système libre. En général, ce que j'ai pu constater, c'est que ces personnes avaient beaucoup moins de soucis une fois qu'ils avaient pu avoir un système libre installé. Ils revenaient moins me voir, ou quand je les voyais, ils me disaient « bon ben ça va, j'ai pas trop de problèmes », parce que faut partir de l'idée que...
Alors, excuse-moi, avant, on va finir le tour de table, la présentation de Claude, et on va rentrer dans le détail, comme ça, on saura qui sont nos invités. Donc, Claude Gage, c'est à vous.
Eh ben, écoutez, moi, je suis comédien, et actuellement, je joue dans une pièce qui a pour titre « 12 hommes en colère » au Théâtre Héberto, tous les soirs à 19h.
Et j'encourage toutes les personnes à aller le voir. Alors, pour rappel, il y a le film des années 50 de Sidney Lumet, si je ne me trompe pas. Et on en parlait juste avant l'émission, dans la période qu'on vit actuellement, avec notamment un certain nombre de réseaux sociaux qui jouent le rôle de tribunal ou autre, voir cette pièce ou lire la pièce 12 hommes en colère est une nécessité absolue.
Ah oui, ça, certainement. Oui.
Voilà. Alors, on va revenir donc maintenant qu'on a fait le petit tour de table de présentation. D'ailleurs, alors on nous signale, je signale que la personne qui est en régie, donc Isabella, signale que c'est l'un de ses films préférés. Alors, donc avant de revenir sur ce que tu commençais à dire, Alain, sur le fait que tu avais beaucoup moins de problèmes avec des systèmes libres dans le cadre de tes formations, on va commencer peut-être par la premier sujet avant d'aborder vraiment le logiciel libre, c'est ce qu'on pourrait appeler la fracture numérique pour les personnes âgées, donc pour les seniors, parce qu'évidemment, forcément, il y a une problématique différente que les personnes que peuvent avoir les personnes de 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Donc notamment, alors il y a plusieurs sujets potentiels, notamment il y a le recul de l'accueil physique dans les services publics, il y a aussi les sites en ligne, on a cité certains en préparant et on va en parler, il y a les liens avec la famille ou les amis géographiquement éloignés. Donc qui veut commencer sur cette partie vraiment, voilà, la fracture numérique pour les personnes âgées ou pour les seniors en général? Peut-être Claude ou Alain, qui veut commencer?
C'est-à-dire que moi j'ai l'impression de ne pas être né dans ce monde. Alors c'est difficile et tout ça me paraît parfois un peu insolite et pas inquiétant mais curieux et d'un accès un peu difficile. Ça va très très vite. Il faut essayer de comprendre des choses auxquelles je n'étais pas habitué. Même la façon de réfléchir le monde est différente maintenant avec ordinateur et Internet. Et alors, il y a quelque chose en moi qui résiste malgré moi. Bien que j'ai été formidablement bien aidé par un certain Alain Cazier qui essayait de me former, j'ai encore du mal. Il y a des choses, par exemple, qui me font reculer. Je me demande, par exemple, faire une déclaration d'impôt, faire des achats sur Internet, prendre un rendez-vous chez le médecin avec docteur, je ne sais plus comment.
Doctolib ?
Doctolib. D'accord. Des choses comme ça, pas que ça m'effraie, mais je ne sais pas très bien comment m'y prendre. Par contre, j'aime bien rechercher des thèmes musicaux, des informations sur des musiciens que j'aime, sur des questions culturelles, sur la lecture, la peinture, des choses comme ça. Bon, j'arrive à le faire. Et c'était avec beaucoup de plaisir. Mais des choses pratiques de la vie quotidienne, je ne sais pas pourquoi, mais ça me rebute, ça me rejette un peu.
D'accord.
Voilà.
On va venir après sur la partie positive hein, oui. de l'apport de l'informatique, mais on va rester pour l'instant sur la partie problématique ou négative. J'ai une petite question. À partir de quand avez-vous commencé à utiliser donc un ordinateur?
Oui.
Et à partir de quand avez-vous commencé à utiliser, alors peut-être contraint ou forcé d'ailleurs, des services sur Internet, donc pour la déclaration d'impôts, comme vous l'avez dit, pour prendre des rendez-vous médicaux, ou peut-être même réserver des places de spectacle?
Oui, hein. Oui. Ben, oui, mais toutes ces activités, je ne les fais pas, justement.
Ah, vous ne les faites
pas?
Je
ne les fais pas.
D'accord.
Je fais des recherches sur la musique, la littérature, la peinture, des choses comme ça. Oui, j'y arrive. Mais je ne sais pas encore bien m'y prendre pour faire toutes ces...
Mais, ouais. L'usage de l'informatique, on va dire, de base, c'est-à-dire la bureautique, oui. Vous avez commencé à l'utiliser? Et si oui, à partir de quand?
Il y a à peu près, ben, quand on m'a offert mon ordinateur, c'est-à-dire un peu plus d'un an.
D'accord.
Un an.
D'accord.
Voilà.
Donc il y a un an, vous êtes mis un petit peu à l'informatique.
Voilà. Oui.
D'accord. Ok. Alain Cazier, tu veux intervenir là-dessus?
Oui, bah, je crois que ce qu'évoquait Claude est tout à fait symptomatique de toute une population qui n'a pas eu la possibilité dans son travail, quand elles étaient en activité, d'utiliser l'informatique. Et ce sont des gens qui, pour l'essentiel, sont très largement désemparés. Avec tous les exemples que donnait Claude, c'est tout à fait évident. Ils sentent qu'il y a de moins en moins d'accueil d'accueil physique du public, et donc ils sont en grande difficulté quand ils ont des démarches à faire, prendre un rendez-vous à l'hôpital, ils sont habitués au téléphone, et donc on voit des gens qui sont en grande difficulté de ce point de vue-là. Dans le centre social, il y a un autre public qui est aussi en difficulté, ce sont des gens qui sont pas des francophones, donc qui peuvent avoir des difficultés. Dans certains, se débrouillent très bien avec tous les outils numériques, mais d'autres, en fonction de leur âge, en tout ça, c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, pour les personnes âgées, c'est une vraie difficulté. En même temps, il y a ce qu'évoquait Claude, c'est-à-dire qu'il y a tout un potentiel qui peut apporter à ces personnes des connaissances diversifiées dans des tas de domaines musicaux, toutes les vidéos qu'on peut voir et dont ils sont friands, tous les échanges avec leurs proches.
Tout à fait. Et donc, quand tu parlais tout à l'heure du recul de l'accueil physique, c'est dans les services publics notamment. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, on parlait tout à l'heure de la déclaration d'impôt. Sauf erreur de ma part, elle va devenir obligatoire en ligne l'an prochain. Alors, je demande de l'aide sur le salon web, si quelqu'un a les informations précises, mais je crois qu'elle va devenir obligatoire très bientôt, en tout cas pour une certaine catégorie de personnes, et que ça pose évidemment, comme vient de le dire Claude Gage tout à l'heure, des problèmes pratiques pour les gens qui découvrent ce monde-là.
Donc si je peux ajouter une chose.
Bien sûr, Claude, allez-y.
Ce que je dirais, c'est que, bon, c'est pas comparer ça à une infirmité, mais pas loin. Mais j'ai le grand désir d'y arriver, de le faire. J'ai envie de me débarrasser de ça et de pouvoir utiliser toutes les possibilités qu'offrent Internet et l'ordinateur et de m'en servir et voilà. D'en bénéficier de tous ces avantages, quoi, toutes ces ouvertures.
Alors, on va parler des avantages. Vas-y, Alain Cassier.
Oui, un petit point que Claude, tu as évoqué, qu'on a évoqué ensemble, c'est que avant que tu aies un ordinateur et un smartphone aussi, bah, tu n'étais jamais au courant des pièces qui étaient jouées par des amis, tu n'étais jamais au courant des offres qui pouvaient être faites de jouer dans telle ou telle pièce. Parce que là, c'était une coupure dans ce qui fait tout ton métier, ta profession, c'était une coupure totale, quoi.
Tu as raison. C'est vrai que, oui, bien des amis qui étaient dans d'autres spectacles, qui jouaient des choses, qui faisaient des interventions différentes, j'étais pas au courant, j'apprenais parfois. Ben, ils me disaient, oui, mais on a envoyé à tous nos amis qui ont des ordinateurs et Internet. Eux, ils savent, ils sont venus. T'es pas venu, parce que tu n'as pas.
Et donc il y a une exclusion sociale qui se crée. Oui, parce que pas par la volonté non, forcée de vos amis ou des personnes qui sont dans votre métier, mais c'est parce que leurs pratiques font qu'elles ont évolué.
La mienne n'a pas évolué.
Et que la vôtre n'a pas encore évolué. Donc on me signale sur le salon web que concernant la déclaration en ligne obligatoire, c'est à compter de 2019, l'obligation de télédéclarer ses revenus est généralisée à l'ensemble des contribuables. Le fisc prévoit toutefois des exceptions, donc je remercie Cousine qui est sur le salon web de la radio. Alors ça, c'est la partie problématique. Alors tout à l'heure, Claude Guedj, vous venez de dire le terme infirmité, c'est clairement un point de blocage, mais en tout cas dans votre vie à la fois sociale, et je pense qu'on le vit tous à peu près, si on n'est pas dans certains réseaux sociaux, on est informé très tardivement d'un certain nombre de choses, et c'est en plus un point de blocage dans votre pratique de comédien
professionnel.
Donc c'est vraiment très dommageable. Alors c'est le point de blocage, mais évidemment, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, Claude, l'informatique apporte aussi des choses positives pour tout le monde, y compris pour les personnes âgées. Alors, dans votre expérience, justement, est-ce que, donc récente sur l'informatique, sur l'usage d'Internet, qu'est-ce que ça a pu vous apporter concrètement, à la fois à terme personnel et à terme individuel ? Professionnel, excusez-moi.
Professionnel, non, mais individuel, oui.
Alors, individuel.
Par exemple, j'ai recherché d'abord, pour écouter des chansons de Leonard Cohen, ça a été formidable. J'ai découvert plein de choses, des chansons que je ne connaissais pas. Sur un peintre aussi, que je cherchais des choses, j'ai réussi à les trouver et ça a été un grand plaisir et une grande satisfaction. Je me suis dit, ah, formidable, j'ai appris, voilà.
Et vous allez vous utilisez un moteur de recherche ou vous allez sur Wikipédia? Comment vous faites pour, par exemple, Leonard Cohen? Alors, Leonard Cohen qui est disparu il y a 2 ans maintenant, je crois.
Oui.
Donc, grand chanteur canadien. Comment vous avez fait?
Écoutez, j'ai tapé Leonard Cohen et tout est arrivé.
Et tout est arrivé.
C'était magique pour moi. je voulais écouter la chanson Le Partisan. Formidable, je l'ai eu tout de suite.
Extraordinaire chanson.
Oui. Oui. Et ça a été un presque un ravissement. Si je veux.
D'accord.
Voilà.
Tu voulais réagir, Alain Cazier, là-dessus?
C'est un peu le cas de tout le monde. La recherche, tu as fait d'autres recherches sur Wikipédia récemment, enfin de musiciens, de jazzmen.
Charlie Parker,
c'était pareil. Oui. Donc à chaque fois, c'est une occasion d'avoir une richesse en information. Et pour les gens que j'ai l'occasion d'aider dans les ateliers que j'anime, c'est exactement la même chose. Ils font des découvertes absolument incroyables de ce qu'ils pensaient, mais en même temps, et ça sera peut-être un des points qu'on abordera après sur les logiciels libres, il y a ce que Claude exprimait, c'est-à-dire la crainte de communiquer sur des données personnelles. Donc là, on reviendra peut-être là-dessus, mais je pense qu'à chaque fois que les gens peuvent taper dans un moteur de recherche qui n'est pas forcément celui le plus courant, s'ils peuvent taper le nom d'un artiste qu'ils recherchent, ils retrouvent de l'information assez précise. Par exemple, sur Wikipédia, je les incite à aider au financement de Wikipédia.
Parce que la campagne
de dons, de façon à ce qu'ils comprennent bien qu'il y a un travail derrière, que c'est pas simplement un don, c'est le contraire un peu de Google qui va lui apporter quelque chose de gratuit, de totalement gratuit, mais qui finalement vous emprisonne largement. Au contraire, là, on a la possibilité de donner pour un service, ou pareil, les gens qui utilisent LibreOffice dans le centre social, qui veulent se former.
LibreOffice, c'est une suite bureautique.
C'est une suite bureautique, voilà, et qui veulent pouvoir taper du texte sans souscrire aux offres de Microsoft. Ils comprennent bien qu'il y a un travail derrière et qu'il faut le financer à mesure de ses moyens.
Alors, j'ai une petite question, parce que quand vous dites que vous avez tapé Leonard Cohen et tout est arrivé par magie, est-ce que vous avez eu conscience à ce moment-là de imaginez un peu le fonctionnement, comment c'est arrivé? C'est-à-dire que ma question, je vais peut-être la préciser, est-ce qu'à ce moment-là, vous faisiez la différence entre un navigateur web et un moteur de recherche?
Pas du tout.
Pas du tout.
Et
alors, je vous pose la question, oui. Et je vais vous laisser poursuivre, parce que beaucoup de gens, de nos jours, en fait, confondent le navigateur web avec le moteur de recherche, parce que quand le navigateur web s'ouvre, en fait, les gens tapent un mot, et en fait, ils pensent, en fait, ils confondent les deux. Et donc, à ce moment-là, en fait, vous dites, c'est par magie, sans vous poser la question de savoir, en fait, quel logiciel était mis en œuvre et par qui derrière.
Non.
Non.
Mon ignorance était totale. J'ai eu cette révélation tout d'un coup. Tout ce que j'ai pu apprendre sur Leonard Cohen ou Charlie Parker sont arrivés comme ça, quoi, après avoir tapé le nom.
Alain ?
Oui, bah, je confirme, la confusion est constante depuis des années que j'anime des ateliers ou que j'aide des personnes dans... Il y a la confusion moteur de recherche et navigateur est constante. Et à chaque fois, je suis forcé de rappeler qu'il y a une hiérarchie entre les deux, que l'un sert à aller sur Internet et l'autre à chercher des éléments plus facilement sur Internet. Donc ça, c'est vraiment une difficulté constante de toutes les personnes. Je pense que c'est pas limité aux personnes âgées.
Alors exactement, je posais la question parce que côtoyant des ados, ben je constate que beaucoup d'ados en fait font aussi la même confusion. Et d'ailleurs sur le salon web de la radio, quelqu'un précise que cette confusion n'est pas que pour les seniors, mais aussi ce qu'on appelle les digital natives. Alors qu'en fait, ces digital natives confondent effectivement moteur de recherche et navigateur, simplement parce qu'on leur a pas forcément expliqué. Alors, en l'occurrence, évidemment, que et comme le précise Muman sur la radio, Google, donc qui est le moteur de recherche, entretienne évidemment bien volontairement la confusion entre les deux. Mais en tout cas, voilà, c'est cette découverte donc d'une masse d'informations qui est librement partagée, enfin pas forcément que librement partagée d'ailleurs, mais qui est partagée et qui est la base d'Internet. J'avais aussi une autre question par rapport aux pratiques individuelles. Est-ce que depuis que vous êtes mis finalement sur l'informatique et sur Internet, vous avez plus de nouvelles de votre famille ou de vos amis, notamment via un certain nombre de réseaux sociaux? Alors, je vais pas les citer parce que peu importe lesquels, en fait. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que on s'envoie plus de cartes postales ou on s'envoie plus de photos imprimées pour se tenir au courant de la naissance du petit dernier ou de l'évolution des gens. On utilise les réseaux sociaux. Donc, est-ce que dans votre pratique actuelle maintenant, vous avez cette information qui vous arrive?
Formidablement.
Ah.
Et pour moi, c'est magnifique. Merveilleux. Oui, j'ai plein d'informations. Par exemple, je préparais un autre spectacle. La personne a pu me laisser une page d'informations que j'ai pu lire, découvrir, réfléchir sur les questions qu'elle me posait, lui répondre. Ça, c'est formidable. Bon, et j'ai pu avoir aussi, bien sûr, des informations sur ce que faisaient de nombreux amis. Alors là, j'arrive encore très bien. Je ne leur réponds pas par Internet, mais surtout par encore avec mon téléphone.
C'est-à-dire ?
Oui, mais c'est-à-dire qu'ils m'envoient un message, et moi je ne réponds pas forcément avec mon ordinateur, mais je prends mon téléphone et je leur dis, voilà, j'ai eu ton message, je te remercie beaucoup, et voilà.
Pour bien comprendre, quand vous employez le terme message, est-ce que c'est un courriel que vous recevez ou c'est un autre message ? Est-ce que c'est un SMS ?
Non, c'est un courriel sur...
D'accord.
Sur Internet, je crois.
D'accord. Et oui, votre réflexe, c'est de prendre votre téléphone et d'appeler pour confirmer.
Oui,
d'accord.
Ça, c'est pas très pratique. Mais bon, faut que je m'y mette. Faut que je m'entraîne. Je dis qu'il faut que je m'entraîne à pouvoir répondre aussi comme eux me contactent.
Effectivement, mais c'est un apprentissage.
Oui.
C'est intéressant de voir comment on s'approprie ces technologies et puis comment les réflexes sont là et puis comment ça évolue aussi, évidemment. Avant d'aborder le sujet suivant qui va être la question des handicaps possibles par rapport à l'âge et l'informatique, est-ce que Alain, tu veux ajouter quelque chose vraiment sur cette partie, on va dire, magnifique d'Internet pour les seniors, enfin pour tous les publics?
Je crois que... En fait, pour ce public comme pour les autres, faut partir des besoins qu'ils ont. C'est-à-dire, les besoins qu'ils ont, c'est de rechercher de l'information, c'est de communiquer. Et le mail qu'évoquait Claude, bah, c'est un moyen de communication. Donc, dans tous les ateliers qu'on anime, c'est ce premier point. Bien sûr, après, il y a accéder à des sites qui vont leur permettre de régler des problèmes administratifs ou de santé ou autres. Mais les besoins sont très simples. En général, les gens ont peu besoin de bureautique. Ils ont éventuellement besoin de taper un courrier simple à une administration ou à une entreprise quand ils ont une question à poser. Mais si on reste sur ces besoins-là, ça couvre 90-95% des besoins. Les réseaux sociaux en tant que tels, les gens s'en méfient plutôt. Je parle des
seniors.
Des seniors, oui. Je pense qu'ils ont une certaine méfiance vis-à-vis de l'usage des réseaux sociaux, et ils sont pas complètement infondés.
Alors c'est la question des données personnelles dont tu parlais tout à l'heure.
Les données personnelles.
Principalement.
Oui, tout à fait. Déjà même le fait de faire une déclaration d'impôt en ligne, le fait c'est pour eux c'est une sorte d'ouverture sur des données personnelles qui devraient rester confidentielles pour eux. Donc il y a une crainte et je pense qu'elle est très générale. Elle est vraiment très marquée. Il y a peu de gens qui n'évoquent pas dans les ateliers que j'anime cette question de la confidentialité des données, la surveillance en ligne, du risque d'être piraté, comme le disent les gens. Enfin, donc, c'est constant.
D'accord.
Et donc là, je crois qu'il y a des éléments pour pour essayer de les rassurer et de leur dire qu'on peut faire certaines choses, mais qu'on peut pas tout faire. Et ce que je voudrais peut-être ajouter aussi, c'est que je m'aperçois que dans ces ateliers, les gens ont pas seulement besoin d'utiliser des outils, ils ont besoin aussi de comprendre. C'est-à-dire que c'est rare que dans une heure et demie d'atelier, il n'y ait pas 10 minutes, je ne sois pas amené à expliquer quel est le fonctionnement fondamental d'Internet, par exemple. Comment fonctionne ce réseau? D'une façon très simple. Comment, par exemple, les informations circulent d'un point à un autre? Comment ils récupèrent sur le serveur de Wikipédia un texte qui va les informer sur Leonard Cohen, pour reprendre ce cas-là, par exemple. Donc ça, il y a besoin de... C'est pas simplement une formation à des outils. Il y a ça, il y a un côté très utilitaire, mais à la fois la volonté de comprendre, de voir comment ça marche, d'une façon courte, d'une façon simple.
D'accord. Et est-ce que vous vous posez des questions sur vos données, donc des données personnelles, mais des données que vous pouvez produire, par exemple des photos que vous pouvez prendre et de leur devenir, c'est-à-dire que la compréhension de savoir est-ce que la photo que vous avez prise, elle est sur votre téléphone mobile, est-ce qu'elle est sur votre ordinateur, est-ce que si demain vous avez un problème technique, est-ce que la photo va être conservée, parce que quand vous, tout à l'heure, Claude Gage parlait de magie, effectivement ça peut être un peu magique ça, quand on connaît pas l'informatique, quand on prend une photo, où se trouve la photo, où se trouve le document que j'ai fait par exemple pour tel service public, est-ce que ces questions-là vous y pensez, comment vous les traitez aujourd'hui, Claude Gage?
Écoutez, je ne les traite pas parce que je ne sais pas l'utiliser.
D'accord.
Voilà. Alors, je le regrette encore, ça fait partie de tous mes regrets, mais enfin, il faut que je me soigne, sérieusement.
Et donc, dans les ateliers, Alain, ce point-là est abordé?
C'est pareil, où sont les données? C'est un point incontournable des ateliers qu'on peut animer, parce que c'est toujours... les gens le voient sur leur portable, sur leur smartphone, par exemple, ou sur leur ordinateur, et ils ont l'impression que c'est chez eux.
Voilà.
Or, ça, c'est vraiment une notion sur laquelle il faut insister en disant, non, c'est dans un serveur, on ne sait pas où il est, enfin, donc on ne sait pas où c'est stocké. Et je crois que là, il y a une formation très précise, pas forcément très longue, mais à faire sur cette question-là.
D'accord. Vous vouliez compléter, Claude ?
Oui. Moi, c'est pas ça qui m'inquiète de savoir où sont les choses, c'est de savoir faire les choses.
Mmh. Voilà. De comprendre, ce que vous dire Alain.
Oui, comprendre, oui, ce que disait Alain. Comprendre les choses et... Oui, c'est ça qui me paraît le plus important. Enfin, en ce qui me concerne, avec mes limites.
Sur le salon web de la radio, donc sur causecommune.fm, les auditeurs et auditrices peuvent nous rejoindre. Il y a plusieurs réactions qui confirment que, effectivement, cette compréhension, ce besoin de compréhension est quelque chose qui est partagé par les seniors, notamment Marie-Odile. Marie-Odile, elle parle d'autre chose. Ah, mais c'est WhatsApp. Donc, on parlera tout à l'heure de WhatsApp, les méfiances. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est partagé. Et par rapport à cette volonté de comprendre, finalement, et on y reviendra tout à l'heure après sur les logiciels libres, mais Internet permettre de consulter de nombreux documents qui vous permettent de comprendre. Donc je suppose que ça doit être absolument extraordinaire. Enfin, je veux dire, il y a un sujet tout d'un coup qui vous intéresse. Vous parliez tout à l'heure de Leonard Cohen. Bon, il y a la page Wikipédia de Leonard Cohen, mais je suppose qu'il y a des sites de fans de Leonard Cohen sur lesquels vous allez peut-être trouver des références, des petits bijoux. Donc,
Alors ça, je n'y ai pas pensé du tout. J'ai pas été très loin, j'ai été jusqu'au plaisir que je prenais à écouter Leonard Cohen et avoir des informations sur qui il était, comment il vivait, voilà. Je me suis arrêté là. Moi, ça m'a beaucoup apporté, mais c'est peut-être limité, ça peut paraître comme limité.
Ah non, pas du tout. Alors, j'ai une petite question avant la pause musicale. En introduction, vous avez dit que vous étiez comédien et que vous jouiez dans la pièce 12 hommes en colère, donc au théâtre Héberto. Est-ce que vous avez été voir la page Wikipédia de 12 hommes en colère?
Eh ben non, moi je n'ai pas été voir, mais mes amis au théâtre me l'ont montré.
D'accord.
Ils savent faire fonctionner tout ça, ils m'ont montré, c'était passionnant. Ah oui, j'ai formidable. Ah oui.
Alors, on va faire une petite pause musicale et après on va reprendre la suite de notre conversation. Nous allons écouter, alors je cherche, Ambroise par Eau-Forte. On se retrouve juste après et continue à passer une belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause commune.
Écoutez Ambroise par Eau Forte, disponible sous licence Creative Commons partage attribution, et vous retrouvez les références sur le site de la radio causecommune.fm et sur le site de l'April april.org. Nous poursuivons notre échange donc avec Alain Cazier, donc conseiller en formation continue retraité, bénévole dans un centre social parisien que je vais nommer d'ailleurs le Paris des Faubourgs, dans le 10e arrondissement de Paris. Et Claude Gage, comédien. Donc nous parlons de logiciels libres et les seniors. On va aborder le point suivant, bah, notamment les handicaps possibles avec l'âge, hein, parce que bah, avec l'âge arrivent des handicaps possibles, que ce soit la vue, l'audition, même la dextérité sur le clavier. Est-ce que, bah, Claude Gage, est-ce que vous avez rencontré ce genre de problème, quel qu'il soit, depuis que vous vous êtes mis à l'informatique, donc à peu près il y a un an de cela, vous disiez, avant la pause musicale?
Oui, l'audition, bon, je suis appareillé, donc ils n'ont pas de problème. Pour la vue, ça va, mais c'est le clavier. Là, j'ai du mal avec le clavier.
C'est quoi le problème avec le clavier?
C'est-à-dire que je m'empêtre dans les lettres, quoi. Au lieu d'écrire bonjour, j'écris bonjour avec Z-T-U-R-T. Ou, je ne sais pas. C'est voilà, il faut que j'apprenne à me servir de ce clavier sans trop me tromper. J'ai essayé d'envoyer un mot à des amis. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu nous as raconté? On n'a rien compris. Et forcément, j'avais mis des lettres un peu n'importe comment, sans faire exprès. Hein.
D'accord.
En croyant bien faire, je faisais mal.
Et voilà. Alain Cazier, est-ce qu'il y a des formations alors là, c'est le clavier sur ordinateur, c'est-à-dire le gros clavier?
Oui, d'accord. Le clavier okay. Ordinateur, oui.
Est-ce qu'il y a des formations simplement à taper au clavier dans ton centre social?
Des formations spécifiques pour à la frappe finalement sur
à
le
frappe,
clavier,
oui.
Non, pas véritablement, mais par contre, c'est vrai que ça fait partie des trois éléments de base que les gens doivent maîtriser au départ, c'est-à-dire la connaissance du clavier. Là aussi, la connaissance du clavier, c'est progressif. On peut pas le faire instantanément, parce que si on noie les utilisateurs potentiels en leur décrivant toutes les touches d'un clavier et les usages possibles qu'on peut en faire, ça va pas marcher. Donc le clavier, la souris, le fenêtrage, ce sont les trois éléments de base.
Alors le fenêtrage, explique ce que ça signifie.
Alors le fenêtrage, c'est-à-dire que quand on lance une application, on va voir sur l'écran un rectangle qui va où va tourner l'application, le programme qu'on souhaite utiliser, par exemple Firefox comme navigateur. On va voir ça, les gens vont vouloir le fermer, vont vouloir ouvrir un autre onglet pour, en même temps qu'ils font une recherche sur tel musicien, pouvoir lire leur mail sur un webmail, enfin bon, ainsi de suite. Donc, tout ça, ça fait partie des éléments de base et faut prendre le temps de le faire. Justement avec les problèmes qui peuvent surgir de vue, de dextérité manuelle ou d'oubli simplement des personnes qui ne se souviennent plus que c'est la touche Alt-GR qui va permettre de taper un arrobas.
Voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre. Sur le salon web, on me signale Grammalect, qui est un correcteur typographique et grammatical libre, qui peut être installé par exemple pour LibreOffice, qui permet de faire de la correction automatique. Donc ça, c'est peut-être une étape d'après en tout cas, mais voilà, il y a des outils qui sont disponibles. Et autour de l'accessibilité en général, il y a pas mal d'outils dans le monde du logiciel libre qui dépend des environnements de travail qu'on peut rencontrer, mais en tout cas, il y a quand même pas mal de choses. Alors là, on va aborder un petit peu la... On a relativement peu parlé de logiciels libres, parce que là, on a fait une introduction, mais c'est une introduction qui est importante. On me signale que Grammalect est aussi pour Firefox, donc le navigateur web, et Thunderbird, qui est un outil pour lire ses courriels. Donc il y a en tout cas pas mal d'outils qui sont disponibles. On mettra les références, évidemment, sur le site de Cause Commune et sur le site de l'April. On va parler un petit peu donc là aussi de logiciels libres, même si on a déjà parlé un petit peu, et puis d'ateliers, parce que donc toi Alain notamment, tu as une longue expérience en formation continue, hein, vu que c'était ton métier avant, et maintenant tu es animateur, enfin depuis très longtemps bénévole dans un centre social. Donc est-ce que toi tu fais de la formation au logiciel libre, ou est-ce que tu fais de la formation à l'informatique en utilisant des logiciels libres? Enfin, quelle est ta pratique de formation, et notamment pour ce public spécifique des seniors?
Alors, le public senior qui vient dans le centre social, dans pas mal de cas, ils ont un ordinateur portable. Et c'est clair que dans la plupart des cas, c'est pas un système libre qu'ils ont sur leur ordinateur portable. Donc, je leur propose pas de changer leur système, bien sûr, mais je leur propose d'abord d'utiliser, même dans ce contexte d'une machine avec un système Microsoft, d'utiliser des logiciels libres, d'utiliser Firefox comme navigateur, d'utiliser des moteurs de recherche qui ne soient pas Google, d'utiliser LibreOffice quand ils ont besoin de taper du courrier. Donc ça, c'est un premier pas. Ensuite, il y a des gens qui viennent et qui, comme il y a des relations, enfin qui s'établissent au fil, qui me disent, moi je vais changer de portable, qu'est-ce que vous me conseillez, qu'est-ce que tu me conseilles? Donc à ce moment-là, là je vais pouvoir peut-être dans certains cas leur proposer l'installation d'un système libre sur une machine sans système.
D'accord.
Et dans ce cas-là, je fais l'installation. Ça fera partie des, non pas des ateliers directement, mais toutes les demi-heures, pendant une demi-journée, je reçois des gens qui ont un problème informatique. Donc je leur dis, vous prenez rendez-vous avec à l'accueil du centre pour venir, et ils viennent en une demi-heure ou un peu plus, parce que l'installation, ça peut être un peu plus long que ça. Donc, et dans ce cas-là, je leur installe un logiciel libre. Ça peut être des gens aussi qui ne veulent plus de Windows, qui ont déjà une notion d'être dans un système propriétaire, d'avoir une restriction de leur liberté, et qui me demandent sur une machine, ça peut être dans un titre de voisinage ou d'amis, de dire j'aimerais mieux que avoir un système qui ne soit pas un système Microsoft sur ma machine, et dans ce cas-là, je leur installe un.
Alors ça, c'est des personnes qui ont une réflexion déjà bien avancée quand même.
Là, c'est plutôt une. Ouais.
Ce qui est intéressant donc dans l'approche, c'est que les logiciels libres que tu as cités, LibreOffice, Firefox et autres, sont des logiciels libres qu'on appelle multiplateformes, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois disponibles sur environnement Windows, également sur environnement libre, donc les systèmes d'exploitation GNU Linux, et pour la plupart, je crois, aussi sur environnement Mac. Oui. Et ce qui permet qu'en fait, une personne qui arrive, donc comme tu le dis, avec son portable sous Windows, tu vas la former, ou en tout cas lui montrer quelques logiciels libres de base, qu'elle pourra continuer évidemment à utiliser chez elle, et si un jour elle évolue vers un système entièrement libre, elle retrouvera finalement les mêmes logiciels et d'autres. Et que finalement, ça permet une transition, une transition souple vers finalement les libertés informatiques.
Oui, exactement. On est forcé de tenir compte du point où en sont les gens qui arrivent. Je peux pas. Il n'y a pas de forcing à faire dans ce domaine-là. C'est sur la base de la conviction. Et je pense qu'il y a des gens, par contre, qui ressentent un petit peu, enfin, qui craignent en tout cas la mainmise sur toutes leurs données, et qui sont assez ouverts sur ce type de questions.
D'accord.
Disons que dans mon voisinage et entourage proche, il y a une dizaine de personnes pour lesquelles j'ai dû installer un système libre à la place de Windows ou des machines sans Windows. Et puis il y a aussi un point auquel ils peuvent être sensibles, c'est quand même le coût des licences. Windows, bon d'accord, on achète l'appareil et on
c'est on le, se coup, rend le pas prix compte, quelque le part prix, inclus, inclus dans son bac.
On ne sait pas d'ailleurs exactement quelle est la part respective du système et du matériel quand on achète un portable. Ça, c'est la première chose. Mais par exemple, pour la bureautique, pour des gens qui ont besoin de LibreOffice pour différentes fonctionnalités, faut s'abonner auprès de Microsoft si on veut Microsoft Office, et c'est un renouvellement tous les ans et on paye tous les ans. Et je leur dis, dans ce cas-là, faut mieux utiliser LibreOffice, et puis on aide LibreOffice à continuer à se développer en en versant une somme, somme toute modique et moins importante que celle qui est versée à Microsoft pour avancer sur cette question.
Et cette question, du coup, elle revient assez souvent dans les motivations ou...
Bah, c'est-à-dire que les gens qui sont... dans les ateliers que j'anime, c'est essentiellement des femmes âgées, hein, essentiellement.
D'accord. Ah ouais.
Oui, beaucoup plus que les hommes. C'est vraiment...
Comment tu l'expliques?
Bah, peut-être, bah, déjà, il y a une différentielle d'espérance de vie, peut-être
oui.
que c'est ça. Donc, il y a peut-être ça. Et puis, d'autre part, disons que dans l'ensemble, il y a des femmes qui sont un peu isolées, celles qui
sont
isolées.
Isolées,
donc elles viennent dans le D'accord. conseil des seniors, et du coup, elles ont connaissance des ateliers qu'on peut animer. Et donc, je pense que c'est le coût, des fois. Et puis, en plus, faut penser que l'informatique, la maîtrise de l'informatique, bon, il y a un aspect culturel, mais il y a un aspect social. C'est-à-dire que les gens qui, par exemple, dans l'atelier que j'animais lundi dernier, enfin hier donc, il y a une personne qui était couturière chez un tailleur. Donc, c'est quelqu'un qui a des revenus très modestes.
Ouais.
Donc, si je lui dis, bah, il y a peut-être une économie de 50 euros ou de 100
ça
euros à
différence.
Faire, ça fait une différence. Quand on voit les prix des licences Windows, bon, quand elles sont achetées à part, c'est phénoménal.
Oui, c'est du racket.
Ouais. C'est plutôt 150 ou euros. Donc, je pense que ça peut toucher certaines catégories.
D'accord. Claude Gage, vous avez dit tout à l'heure que ça faisait à peu près un an que vous étiez mis à l'informatique. C'est quoi? C'est quelqu'un de votre famille qui vous a acheté un ordinateur? Ou vous-même, vous avez dit, je vais m'acheter un ordinateur? Qu'est-ce qui a été le déclencheur?
Déclencheur? Ça a été une grande surprise. C'est un cadeau qui m'a été fait par des gens de ma famille, dont Alain, un oncle, un cousin, voilà, qui, pour me mettre un peu au pied du mur, m'a
D'accord.
offert cet ordinateur.
Donc on va expliquer que vous êtes tous les deux cousins.
Oui.
Et donc, et c'est, je suppose que c'est... Ça doit être assez souvent le cas que finalement, une personne de la famille ou la famille se cotise pour acheter un ordinateur à quelqu'un, bah, un senior de la famille. Et donc, c'est l'occasion de découvrir. Et donc, très souvent, enfin, on va dire la majeure partie du temps, le système est préinstallé sans doute avec Microsoft Windows, d'où l'importance de l'avoir des logiciels libres multiplateformes et d'y aller par étapes. Tout à l'heure, quand on préparait, tu parlais, Alain de partir des besoins aussi, parce que c'est on rencontre alors de moins en moins de gens qui essayent de contraindre et forcer les gens d'aller vers le logiciel libre, mais ce qui est important, c'est de partir des besoins des gens, en fait.
Oui, c'est-à-dire que... Si Claude nous avait dit, moi, l'informatique, je n'en veux pas, j'ai des gens que je connais dans mon entourage, je ne veux jamais... avoir aucun smartphone, je ne veux pas... mais en même temps, tu constatais que par rapport à ton métier, il y avait des liens que tu n'avais plus, que tu perdais de l'information et tout
oui,
ça.
Beaucoup.
Donc c'est ça qui nous a motivés à dire, bon, bah, en faisant un tour et pour tes 80 ans, de pouvoir que tu puisses avoir un ordinateur et également un
et
smartphone.
Oui, c'est ça, et rester en contact avec beaucoup de gens.
C'était ça, hein, c'était le. Mais il y a des gens qui sont complètement réfractaires. Moi, je vois des gens qui disent bon, je veux pas m'occuper de ça, ou j'ai plus l'âge de m'occuper de ça. Bon, alors je sais pas comment ils réagiront dans 2 ans, hein, ou dans 1 an. Mais en tout cas, faut partir de là où en sont les gens. Et là, il y avait clairement chez Claude l'expression d'un besoin, l'expression d'un manque.
Oui, c'est ce qu'il a expliqué tout à l'heure par rapport notamment à son métier. Là, je suis en train de regarder les commentaires sur le salon web. Donc, je rappelle aux personnes qui nous écoutent qu'elles peuvent nous rejoindre sur causecommune.fm. Tout à l'heure, donc, Alain, tu parlais de l'aspect coût. Bah, il y a Muman qui nous rappelle que on peut trouver sur le site agendadulibre.org, donc agenda du libre tout attaché, non seulement tous les événements autour du logiciel libre, mais également la liste des organisations qui font des formations, des accompagnements autour du logiciel libre, ce qu'on appelle les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres. Donc là, Alain, toi, tu es bénévole dans un centre social parisien, mais partout en France, il y a des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices qui aident les gens à aller vers le logiciel libre. Il y a aussi des médiathèques, des cyberbases, etc. Ça, c'est le premier point. Et sur l'aspect du coût, c'est toujours Muman qui dit autant payer une petite cotisation à son groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices local ou de donner à LibreOffice plutôt que de donner beaucoup d'argent à Microsoft ou Apple. Donc voilà, c'est vrai que c'est un retour qui peut être intéressant par rapport soit au projet, soit aux gens qui vous aident. Alain,
tout à fait, oui. Je crois que, par contre, dans ce domaine-là, Moi, je me suis senti un peu démuni des fois parce que j'étais le seul à pouvoir
former,
alors que la demande dans le centre social à pouvoir former. Le seul en tant que bénévole en général dans l'informatique, parce qu'il y a des manques, des besoins de. S'il y a des centres sociaux qui sont espaces publics numériques et qui peuvent apporter une aide, il y a des médiathèques aussi, par exemple comme celle des Halles qui fonctionne sur le logiciel libre. Mais quand on est seul, on se débrouille avec un petit groupe de personnes, mais on va pas plus loin. Et je pense que ça pourrait être une ouverture sur les logiciels libres en général. Qu'il y ait installation après d'un système libre, c'est une autre question, c'est une autre étape. Mais en tout cas, sur l'usage de logiciels libres et sur la protection de ces données, je pense que ce serait très intéressant que peut-être que les groupes locaux visent aussi ce public-là. Parce que les groupes d'utilisateurs de logiciels libres tournent avec du public avancé, jeune. Et des jeunes qui connaissent bien le domaine.
Ah oui, tu parles de viser le public des seniors.
Voilà, viser le public des seniors. Et peut-être que dans ces groupes, d'ailleurs, s'il y avait des bénévoles, des gens qui voudraient le soir... Alors, c'est plus difficile pour les gens jeunes parce que les animations se déroulent souvent en journée. Voilà. Mais ça peut se faire aussi le soir dans certains cas. Ça serait bien de pouvoir étoffer le potentiel d'animateur de ce type d'atelier.
Alors, donc, c'est un appel lancé au groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres, effectivement, d'élargir leur périmètre s'ils peuvent le faire, parce que, comme tu le dis, les formations sont souvent en journée pour ce type de public. Concernant les espaces publics numériques, j'informe les personnes qui nous écoutent que le 22 octobre, donc dans 15 jours, nous ferons une émission donc sur les espaces publics numériques et le logiciel libre avec une personne donc de la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, une personne de la cyberbase de Saint-Denis, donc dans le 93, et une personne de la biotech francophone de Limoges pour le retour d'expérience par rapport donc à la formation et sensibilisation au logiciel libre, là pour tout public. Et évidemment, ils ont aussi beaucoup de CDR. Donc c'est le 22 octobre. Alors, je regarde les petites questions qu'on nous a envoyées aussi en préparant l'émission. Quelle est la publicité faite et de quelle façon fais-tu, notamment Alain, pour attirer les seniors dans ces formations ? Pour les sortir justement peut-être de la solitude dont tu parlais tout à l'heure ou les convaincre de venir à ces formations ? Est-ce qu'il y a une méthode utilisée ? Est-ce qu'il y a une approche qui permet vraiment de les convaincre de venir ?
Alors, je disais à l'instant que j'étais un peu des fois seul à faire ce genre de... Et faute de relais, c'est difficile. Moi, je peux pas... j'ai des activités. Je peux pas former des dizaines de personnes. Je peux former un groupe. Je peux donner une demi-journée de plus. Enfin bon, en gros, j'y consacre une grosse demi-journée. Juste en atelier ou en soutien quand les gens ont un problème, qu'ils ont rencontré un bug en informatique et que donc élargir, j'ai pas besoin trop de faire de publicité en fait.
C'est
le Conseil des seniors.
Qu'est-ce qui s'appelle le Conseil des seniors ?
Conseil des seniors, c'est un groupement organisé par la mairie du 10e. Je pense que dans les autres mairies d'arrondissement, ça doit exister à l'identique. Et donc, ils se réunissent pour des activités qui les intéressent. Ils définissent ensemble les activités. Et ils se réunissent, nous on a la chance qu'ils se réunissent dans le centre social. Donc quand ils ont une activité chorale, ils l'amènent dans le centre social. Donc ils connaissent les activités du centre, on leur présente. Ça se fait très naturellement. Ça serait d'ailleurs peut-être dans d'autres endroits, je pense que ça existe dans d'autres arrondissements, un moyen de contact avec cette population qui est plus âgée que les autres.
D'accord. Dans ton expérience de formateur, est-ce que tu vois des différences entre réelles dans l'approche entre les différents types de publics, que ce soit les jeunes, la classe moyenne, les gens de 30-40, et puis les seniors ? Ou est-ce que finalement, au niveau formation, c'est à peu près pareil ?
Je crois que non, il y a les mêmes démarches, hein, de toute façon. Sauf que là, ce sont souvent des gens... souvent qui débutent complètement, donc qui n'ont même pas eu une approche quelconque. Hein. Quand même, c'est difficile d'avoir des gens de 30 ans qui n'ont aucune approche du numérique et de l'informatique. Pour les gens qui ont plus de 65, 70, voire plus, bon, ils ont des fois, ils arrivent. Donc, faut revenir sur les bases que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le clavier, la souris, l'utilisation d'un système avec des fenêtres. Et en plus, on constate que dans cette formation, la souplesse ergonomique apportée par certains logiciels, quel que soit d'ailleurs que ce soit libre ou pas libre, peu importe, est une entrave à l'apprentissage rapide. C'est-à-dire que plus, je sais pas, le potentiel, par exemple, pour faire un copier-coller,
oui.
Qui existe dans tous les logiciels à l'heure actuelle, est perturbant pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire que si on peut pas, on ne va pas annoncer à quelqu'un qu'il y a 5-6 façons de faire un copier-coller dans le logiciel. Donc, il faut s'en tenir à une seule possibilité, leur dire bah, on peut faire autrement, mais si ça vous intéresse, je vous le dirai. Mais surtout, être très progressif dans le potentiel offert par les logiciels à l'heure actuelle. L'ergonomie tue d'une certaine façon l'ergonomie, la richesse visuelle, le graphisme, ça peut être très, très joli, mais c'est aussi une entrave en termes de formation.
Des fois, la simplicité est un avantage.
Et donc, je pense que là, du coup, les systèmes, certains systèmes libres, un potentiel d'avoir des systèmes simplifiés, qui n'existent pas dans les systèmes propriétaires. Et je pense que là, ça peut être aussi intéressant d'avoir des versions plus sobres.
D'accord. Claude Gage, dans votre découverte de l'informatique, est-ce que vous avez découvert récemment des logiciels ou des sites vous avez parlé tout à l'heure du moteur de recherche, mais aussi un petit peu de Wikipédia. Mais voilà, dans votre découverte, finalement, est-ce que LibreOffice, maintenant, VLC, vous connaissez, ou est-ce que vous êtes dans la phase d'apprentissage?
Je suis plutôt dans la phase d'apprentissage. D'accord. Alors, je ne veux pas trop m'avancer, je dirais des bêtises. Je suis plutôt dans la phase d'apprentissage. Et, comme je vous le disais tout à l'heure, envie d'en savoir plus et d'utiliser beaucoup plus que je ne le fais mon ordinateur et Internet.
Et donc, en fait,
et avoir une réponse à toutes ces questions que vous me posez, auxquelles je ne peux pas
répondre. Et donc, dans votre pratique, vous allez donc, comment ça se passe? Vous allez au centre social avec Alain ou vous avez de la formation à la maison? Comment vous faites?
Non, c'est Alain en fait... qui se dérange jusqu'à moi pour m'aider à me dégrossir. Ouais. Je ne sais trop comment le remercier du mal qu'il se donne. Je suis un peu bouché.
Non, j'ai pas du tout l'impression que vous soyez bouché. Je crois que dans beaucoup de familles, en fait, c'est ça. C'est l'entrée dans les familles. Là, vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui s'y connaît bien au logiciel libre. Je pense que dans plus en plus de familles, c'est le cas. Tu veux rajouter quelque chose à là?
Oui, je voudrais dire que c'est quand même aussi, faut penser que les gens abordent ça peut être abordé avec plaisir, cette découverte. Quel que soit l'âge à laquelle on découvre. C'est-à-dire qu'à 80 ans, à 85 ans ou à 60 ans, on peut avoir du plaisir à découvrir le potentiel du numérique sur tel ou tel domaine. Il ne faut pas avoir simplement... C'est vrai qu'il y a des contraintes qui sont très lourdes, qui handicapent les gens. Il y a plein de choses difficiles. Mais en même temps, il y a aussi du plaisir à découvrir des choses qu'ils pensaient complètement inaccessibles.
Et Claude Gage, est-ce que vous avez... Là, on approche de la fin de l'émission, mais on a parlé tout à l'heure de sites qui parlent d'artistes et autres. Est-ce que dans votre métier, vous, donc, de comédien, est-ce que vous avez envie à un moment de vous lancer dans la création d'un site web, aidé par quelqu'un pour faire connaître votre métier d'acteur, de comédien? Ou c'est pas du tout dans vos intentions?
Non, c'est pas dans mes intentions pour
d'accord.
le moment. Non, non, mon intention, c'est de l'utiliser d'une façon pratique, un peu intelligente.
D'accord.
De m'ouvrir davantage aux possibilités qu'offrent Internet et l'ordinateur, et de savoir un peu le maîtriser tout ça, quoi. Et ça, j'ai une grande envie. Et cette émission va beaucoup m'aider et m'encourage fortement à continuer dans cette voie et à le faire.
Ah bah écoutez,
je vous en remercie beaucoup.
Ah bah c'est super. Alors, vous êtes à la radio, les personnes qui nous écoutent, donc vous ne pouvez pas voir Claude Gage, mais quand il parle d'Internet, d'informatique, il a un sourire. Donc, on sent vraiment le plaisir de la découverte. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Et je rappelle que vous êtes à l'affiche en ce moment avec 11 autres acteurs dans 12 hommes en colère, donc au théâtre Héberto. C'est dans quel arrondissement de Paris?
17e,
mais c'est juste métro Rome. Et c'est jusqu'à quand?
Jusqu'à début janvier.
Donc jusqu'à début janvier 2020, donc courez-y pour aller voir ce film. Et l'actualité, comme je l'ai dit tout à l'heure, rend encore plus important de voir ce genre de film, donc 12 hommes en colère. Alors Alain, je vais te laisser le mot de conclusion. Alain, non,
je rectifie, c'est une pièce, hein, c'est pas un film.
Ah oui, j'ai dit un film. Alors voilà. Alors à l'origine, c'est une pièce. Alors le nom, je vais m'échapper, mais c'est Réginald
Rose.
Et effectivement, après, il y en a eu un film de Sidney Lumet. Il y en a peut-être d'autres, mais effectivement, à l'origine, c'est effectivement une pièce. Merci de la correction. Merci de la correction, Alain. Donc merci en tout cas. Je remercie donc de nouveau Claude Gage, donc comédien. Peut-être un mot de conclusion d'Alain Cazier.
Bah, si c'était émission peut servir à susciter des volontaires pour un bénévolat, où qu'il soit et quelle que soit sa nature, pour développer le logiciel libre et aider les seniors à s'en sortir sur les problèmes qu'ils rencontrent en informatique. Ça sera parfait, ça sera pour moi un atout important.
Bah écoute, je l'espère aussi. En tout cas, je vous remercie de votre participation et je vous souhaite de passer une belle journée.